À ta santé, trois fois. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Jean-François Baudet qui va être avec nous aujourd'hui. Bonjour, oui. Donc, il me fait signe que le casque ne fonctionne pas. On va s'occuper de ça très prochainement. Bonjour Dylan qui s'affaire à la technique parce qu'effectivement, c'est quand c'est des buts en direct, eh bien, il y a toujours quelques petits aléas qu'on ne va pas tarder à compenser. Pour cela, je vais donc laisser le temps de rendre tout ça rentre dans l'ordre et vous proposer le programme du jour. Bien sûr, il y aura un instant poétique avec Raymond Queneau et des élèves de 6e aussi qui auront écrit un petit texte que je vous livrerai avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. On aura bien évidemment, comme vous l'avez entendu, donc l'occasion de bavarder, de discuter avec Jean-François Baudet, psychanalyste à Bordeaux. Il va nous raconter pourquoi il s'est mis à la psychanalyse, pourquoi et d'où et comment. Voilà, on aura tout ça partagé avec lui. Des infos santé, comme d'habitude, selon le temps que nous aurons à notre disposition. Des musiques partagées, bien sûr, parfois connues, parfois peu connues. Et une belle conclusion aussi pour démarrer une très très belle semaine. Alors, commençons donc par débuter tout en calme, tout au calme, sérénité, douceur et poésie avec Raymond Queneau, qui a écrit pour un art poétique. C'est en fait sous forme de recettes de cuisine. Vous allez voir, c'est assez rigolo, plutôt mignon. Voilà, je vous livre ça. Prenez un mot, prenez-en deux, faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à petit feu, au petit feu de la technique. Versez la sauce énigmatique, saupoudrez de quelques étoiles. Poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir ? À écrire vraiment ? À écrire ? Et oui, voilà, merci Raymond Queneau pour ça. Et alors là, je voulais aussi partager avec vous un petit écrit réalisé par des élèves de 6e qui, juste après la rentrée déjà, ont des idées un peu curieuses et vont suivre effectivement sous forme de recettes de cuisine ce que vient de nous livrer Raymond Queneau. Alors, ils l'ont intitulé, ce petit texte, « Comment ne pas aller au collège ?» Évidemment, quand on est en 6e, on est au collège. Alors, attention, je vous livre ça. Évidemment, il ne faut pas suivre, hein, bien sûr. « Préparez quelques morceaux de stylo. » Mélangez le tout avec un bureau, puis faites mariner avec un sac à dos. Incorporez un tableau et mélangez l'ensemble dans un seau, puis rajoutez des ciseaux. Et pour finir, étalez du blanco, jetez le tout dans la neige et vous n'irez plus au collège. Voilà. Et ça rime, voilà. Je trouvais ça mignon, rigolo. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-François.
Oui, mais écoutez, vous avez trouvé une introduction sur la psychanalyse qui est plutôt pas mal, parce que Raymond Queneau, effectivement, il parle des mots et de la cuisine qu'on peut faire avec les mots. Et qu'est-ce que c'est que la psychanalyse ? C'est la cure par la parole.
D'accord.
Donc c'est avoir les mots au bout de la langue, au fond du cœur, ou dans le ventre.
Oui, hein. En somme, jouer avec les mots.
Hein. C'est un jeu. Jouer non, c'est pas avec, un jeu. C'est pas, ça peut être un jeu, mais ça peut être une souffrance. Hein,
Une délivrance, certainement.
Et plus tard, une délivrance, c'est le but de la psychanalyse, effectivement.
Bien sûr. Voilà, tout un programme. Donc, nous allons avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à partager tous ensemble. Hein. Mais pour vous laisser le temps de vous installer encore plus confortablement pour mieux appréhender et profiter de cette belle émission à ta santé sur Audo Radio 411.3 et Internet. Je ne l'ai pas dit pour une fois, mais effectivement, vous pouvez nous retrouver partout, partout dans le monde entier, quel que soit l'endroit où vous êtes, hein, si vous êtes même dans les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, ou autres à la plage, à Paris, à Lyon, que sais-je, etc. Vous pouvez bien sûr profiter de cette belle émission à ta santé en notre compagnie et on compte sur vous, bien sûr. Alors là, d'emblée, nous allons nous tourner vers Dylan et nous accorder notre première respiration musicale avec un interprète français, Tété, qui nous interprète la chanson « À la faveur de l'automne ». Ça tombe bien parce que nous sommes en automne, on écoute et on se retrouve juste après, tous les trois ensemble, là, pour parcourir un thème fabuleusement intéressant, à savoir la psychanalyse. À de suite, merci.
Posté devant la fenêtre, je guette les âmes isolées à la faveur de l'automne. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant que tu abandonnes. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme une Froden, de vieille mélodie. Rivé devant le téléphone, j'attends que tu daignes m'appeler, que tu te décides enfin. Toi tes allures de garçon rompies un peu la monotonie de mes journées, de mes nuits. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Un, deux, trois, quatre, un peu comme mon frotteur de vieille mélodie. À la faveur de l'automne super scopy de oh, 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 à la faveur de l'automne, oh, oh, à la faveur de l'automne, oh, 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 à la faveur de m'avait prévenu, voici la vérité nue. Et là, là, mon frère, plus que le mauvais temps s'y mettre, une goutte d'appui, et j'aurais vraiment tout perdu. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie.
Et nous voilà de retour dans votre émission À ta santé sur Eau de Radio 91.3 et Internet, bien sûr, en compagnie donc d'Ilan à la technique et surtout, surtout, surtout Jean-François Baudet, donc psychanalyste à Bordeaux, toujours là, remis le casque pour bien entendre. Alors, on va essayer de comprendre avec Jean-François un peu mieux la psychanalyse. On va peut-être pas rentrer dans les moindres petits détails, mais on va essayer en tous les cas de vous faire profiter de son expérience pour mieux comprendre et peut-être certainement, nous l'espérons à la fin de l'émission, vous avoir donné envie, sinon d'aller consulter Jean-François, mais aussi certainement de vous tourner vers la psychanalyse. D'accord ?
C'est oui, je suis d'accord avec
alors
avec
on peut vous, donner une définition ou...
La définition de la psychanalyse, je vous l'ai presque un peu donnée tout à l'heure en vous expliquant que c'était la cure par la parole. C'est-à-dire que le patient qui va voir un psychanalyste se sent un peu délaissé par la médecine traditionnelle.
Et ça arrive.
Et ça peut arriver, mais les médecins eux-mêmes, le conventionnel, le reconnaissent. Quand vous avez des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont des angoisses, parce qu'ils ont des palpitations cardiaques, parce qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils s'évanouissent quelquefois brutalement ou ils se sentent mal, eh bien, qu'est-ce que fait le médecin ? Il procède à des investigations qui sont très, très importantes aujourd'hui. On a une imagerie médicale bien supérieure à ce que Freud pouvait connaître à l'époque. Lorsqu'on parle de psychanalyse, on parle quand même beaucoup de Freud.
Bien sûr.
Et quand le médecin s'aperçoit que les IRM sont excellents, que les radios des poumons sont parfaites, que le corps fonctionne bien, et qu'est-ce qu'il peut répondre à la personne qui lui dit qu'elle souffre ?
Oui. Plus grand chose aujourd'hui.
Enfin, aujourd'hui, plus grand chose, oui. Mais déjà à l'époque de Freud, Freud le dit dans ses ouvrages en disant que les psychanalystes sont à la disposition des gens qui souffrent et qui sont délaissés par la médecine traditionnelle. Donc, quand on va voir un psychanalyste, c'est que en général, ce sont des angoisses, des moments de nervosité tels que ça rend la vie insupportable.
Oui, qui vous paralyse finalement.
Qui vous empêche de vivre. Une timidité maladive, des angoisses brutales lorsque vous êtes en public ou lorsque vous sortez dans la rue simplement. Donc le psychanalyste lui propose non pas des médicaments, mais de travailler sur la mémoire intérieure en quelque sorte. Vous savez, on a deux types de mémoire. Il y a la mémoire de l'acteur de théâtre qui apprend son rôle, de l'élève qui apprend ses tables de multiplication. Ça, c'est la mémoire la plus courante, évidemment, celle qu'on exerce.
Qui est utile.
Qui est très utile, celle qu'on exerce tous les jours et dont on se plaint qu'elle se réduit avec l'âge, la plupart du temps. Et puis, il y a une seconde mémoire qui est vraiment la découverte freudienne, c'est-à-dire une mémoire intérieure, une mémoire inconsciente, où il y a des traces mnésiques de ce qui vous est arrivé dans la vie, dans l'enfance, ou même plus récemment, à l'âge adulte, et qui vous handicape, des choses qu'on ne peut pas digérer, des choses qui vous bloquent.
Et qui réapparaissent peut-être, c'est-à-dire...
Alors, qui peuvent aussi réapparaître, parce que justement, quand vous dites ça, c'est très intéressant, parce que les découvertes scientifiques les plus récentes ont démontré, ont confirmé en tout cas le postulat freudien. C'est-à-dire que ce que l'on sait, c'est une... Alors là, je vous livre un article du Monde du 3 août dernier, qui m'est tombé sous la main, où les études de neurologie les plus récentes ont démontré qu'il existait, si j'ai bien compris, une petite glande dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale comme l'amygdale au fond de la gorge, mais qui diffuse une petite hormone qui permet de refouler les choses qui vous sont désagréables. C'est-à-dire, on vit beaucoup par le principe de plaisir, et tout ce qui est d'ordre traumatique, tout ce qui est de l'ordre du mauvais souvenir qui vous empêche de vivre, on le met à l'écart. Et c'est cette petite hormone qui permet le refoulement dont Freud avait fait l'instrument de sa science.
Bien utile néanmoins quand on subit.
Bien utile parce que si nous n'avions pas ce refoulement-là, nous deviendrions fous.
Oui. Hein,
c'est-à-dire qu'on aurait une mémoire totale de tout ce qui nous est arrivé depuis notre naissance jusqu'à la date d'aujourd'hui, et ça serait absolument insupportable. Seulement, ce refoulement, il n'est jamais complet. Il y a ce qu'on appelle le retour du refoulé, c'est-à-dire des choses que l'on a oubliées, que l'on a anesthésiées dans sa mémoire, et qui brutalement, pour des raisons d'actualité, remontent, reviennent, et vous gâchent la vie considérablement. Donc, d'où le mal au ventre, d'où l'angoisse, d'où la peur, etc. Les psychanalystes, ça sert à ça. Ça sert à permettre aux gens, par la parole, d'explorer ce monde intérieur, ce monde inconscient, qui permet justement de faire ressurgir à la conscience un traumatisme oublié, mais que l'on peut enfin élaborer, ou ce que Freud appellerait perlaborer.
D'accord.
Voilà.
Tout passe donc par les mots, par
tout
ce que
passe
l'on
par
va
les
exprimer.
Absolument, oui. Et ça, c'est sûr que pour entrer en psychanalyse, il faut avoir les mots pour le dire,
d'accord,
si on peut dire. Donc on n'est pas tous à égalité sur le fait de se livrer. Mais la répétition des séances, le fait de la neutralité du psychanalyste qui ne vous juge pas, le fait de l'empathie qui va naturellement naître, bien sûr, entre le psychanalyste et le patient, c'est souhaitable. Et vivement recommandé, c'est ce qu'on appelle le transfert, d'ailleurs, dans le langage psychanalytique. Eh bien, cette situation-là va permettre à la personne de progresser et de réaliser peut-être elle-même comment elle peut sortir de cet écueil d'angoisse ou de phobie.
D'accord. Et je voulais commencer par une question, mais
toutes les réponses avant d'avoir les questions. Je m'excuse d'être trop bavard.
Ah non, non, au contraire, c'est passionnant. C'est nettement plus agréable d'avoir justement à ne pas poser de questions. Je pense que ça doit faire sens pour un psychanalyste. Non, mais justement, la question, c'était pourquoi va-t-on voir un psychanalyste ? Mais on a répondu pour tout ça, effectivement. Donc, c'est sûr que on voit bien tout l'intérêt de ce travail psychanalytique, hein, effectivement, pour des personnes chez qui les choses se réveillent. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien envisager que les choses ne se réveillent pas, c'est-à-dire qu'avoir un équilibre presque...
Ah, mais ce que vous dites est très intéressant, parce que s'il n'y a pas de retour du refoulé, si on a refoulé tout ce qui nous bloque, alors là, on est en état d'équilibre.
D'accord. Hein? Mais on n'est pas dans un état pathologique.
On n'est pas dans un état pathologique. On n'a pas forcément besoin d'aller voir un psychanalyste parce qu'on refoule beaucoup de choses, heureusement.
Hein, oui, c'est ce qu'on a commencé par dire.
Voilà.
Donc, refoulement n'est pas synonyme de difficulté à vivre.
Difficulté à vivre, c'est le retour du refoulé.
Le retour du refoulé.
C'est ce qui revient à la mémoire, qui n'est pas encore la mémoire consciente, mais qui vous fait mal, qui vous handicape, au point de vous gâcher la vie, de souffrir, de faire tous les médecins possibles et imaginables pour essayer de chercher une solution que la médecine conventionnelle ne peut pas forcément apporter.
On va dire qu'il n'y a pas donc de limite finalement, parce que c'est un domaine très très vaste. Il y a quand même, où y a-t-il des limites justement à la psychanalyse par rapport à ce que vous exprimez ? Parce que dès lors que quelque chose est refoulé et vient de s'exprimer, le retour de refoulement, ce que vous exprimez, donc est-ce qu'il y a parmi cela des choses qui ne sont pas, à traiter par la psychanalyse particulièrement ou...
Alors ce qui n'est pas à traiter par la psychanalyse, c'est la psychose.
D'accord.
C'est la psychose, parce que là, seuls les psychiatres, médecins peuvent, à mon avis, s'occuper des psychotiques, mais la névrose, c'est-à-dire cette espèce de conflit qui existe entre le ça et le moi, dirait Freud, c'est-à-dire entre l'inconscient et ce que je voudrais être, mais que je n'arrive pas à être, parce que justement, il y a l'éducation qui a pu influer, il y a les normes religieuses qui ont été excessives parfois et qui empêchent aux gens de se réaliser, alors là, on est dans un conflit psychique qui est soluble, si on peut dire, par la psychanalyse.
D'accord. On pourrait, si vous l'acceptez, faire un petit point sur psychologie, psychologue,
oui,
psychiatre.
Oui, alors il y a beaucoup de psy, hein, ça c'est vrai. Quand les gens d'ailleurs, ils parlent de leur psy, mais
oui,
on ne sait pas qui ils vont voir en définitive. Ben, le psychiatre est médecin.
D'accord.
Lui, il a fait 7 ans de médecine, plus une spécialité. Les psychanalystes... les psychiatres font parfois de la psychanalyse. Aujourd'hui, ils en font moins qu'autrefois parce qu'ils sont peu nombreux, souvent.
Très occupés.
Et ils n'ont pas le temps. Il faut beaucoup de temps pour écouter les gens et pour... Donc ils en font de moins en moins. Alors ça, c'est le psychiatre. Le psychologue, c'est celui qui travaille sur la conscience. Hein. Le psychologue, il va plutôt être psychothérapeute, c'est-à-dire qu'il va parler face à face avec son patient pour essayer de dénouer quelque chose qui est de l'ordre du conscient. Le psychanalyste, lui, il va plutôt s'intéresser au monde de l'inconscient, comme je l'ai souligné.
C'est très intéressant, cette différence, hein, qui prend sens certainement pour les gens qui nous
écoutent. C'est vraiment la différence primordiale, entre... le psychothérapeute et le psychologue.
D'accord.
Alors, les psychanalystes peuvent faire aussi ce qu'on appelle de la psychothérapie analytique, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi procéder en face à face. Mais en face à face, on n'est jamais à l'abri de trouver sur le visage de son interlocuteur un petit sourire, un rictus, un œil qui s'éclaire ou qui se ternit. C'est-à-dire que même si le psychanalyste ne veut pas juger, il reste un homme pour autant. Hein. Donc, pour éviter ça, on allonge les gens.
D'accord.
On allonge les gens quand ils sont capables de s'allonger. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans l'angoisse ou dans l'hésitation qu'ils n'ont pas envie de le faire. Il ne faut jamais forcer. Et le psychanalyste, lui, s'installe derrière son divan, parce que comme ça, il sait qu'il n'y aura pas de vis-à-vis. Et donc, l'élaboration de la parole par le patient sera plus libre.
D'accord.
C'est en tout et cas oui, la préconisation de Freud dès le départ.
D'accord. Et c'est jugé par tout le monde comme tout à fait une attitude, une situation favorable ou pas. Parfois, certains se trouvent gênés peut-être de ne pas avoir...
Alors, c'est un peu le patient qui choisit. On ne peut pas obliger les gens.
C'est pas ça.
On ne peut pas obliger les gens, on peut expliquer, on peut faire de la pédagogie en expliquant pourquoi la position allongée permettrait de se délester plus facilement, mais si les gens ne le souhaitent pas parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont des réticences, on peut faire une vraie psychanalyse en face à face.
Bon, ça c'est très bien de laisser la liberté.
Psychanalyse et liberté sont des termes synonymes.
Bon, tout ça va dans la très très bonne direction. J'espère en tous les cas que vous êtes très très heureux de pouvoir mieux évaluer, comprendre, toucher effectivement les contours de cette psychanalyse. On ne s'arrête pas là, bien sûr, mais je vous permets effectivement, là, si vous le souhaitez, d'aller prendre un petit café, un verre d'eau, si vous le souhaitez. Et on se retrouve après avoir écouté un duo, Jeanne Chéral et Bernard Lavillier. Ce morceau-là, je ne le connaissais pas, il s'appelle L'Espoir. C'est un grand mot aussi, l'espoir,
on pourra en parler. Très joli mot.
Très joli mot, et très évocateur, qui a beaucoup, beaucoup de sens. Donc voilà, et c'est chanté là par Bernard Lavillier et Jeanne Chéral. Et on se retrouve, bien sûr, ensemble, encore, pour parcourir ce merveilleux thème de la psychanalyse. À de suite. Merci.
Sur la noirceur du soleil, sur le sable des marées, sur le calme du sommeil, sur mon amour retrouvé. Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé. Le soleil se lève aussi, j'attendais cette lumière pour me sortir de la nuit, pour oublier cet enfer.
Pour voir ce sourire d'enfant, pour ce cahier déchiré, pour enfin que les amants n'aient plus peur de s'enlacer.
Le soleil se lève aussi,
le soleil se lève aussi,
le soleil. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait,
pour la noirceur du soleil,
sur le sable des marées,
pour ta beauté au réveil,
pour mon calme retrouvé.
Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces. Va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait.
Voilà, de retour dans notre émission À ta santé sur Eau de Radio, en compagnie d'Ilan à la technique, Jean-François Baudet, ici même au micro, psychanalyste à Bordeaux, qui a un parcours quand même, on ne l'a pas dit en introduction, et c'est pour dire un petit peu comment nous sommes rencontrés, et puis après on rentrera à nouveau dans le vif du sujet de la psychanalyse. Il faut savoir que...
Il faut savoir que je suis un jeune psychanalyste, psychanalyste de 63 ans, mais j'ai fait une carrière d'avocat pendant 35 ans.
C'est comme ça que nous sommes rencontrés. J'ai besoin des services d'un avocat.
C'est gentil de vous le rappeler. En tout cas, je suis venu à la psychanalyse, effectivement, par ma profession d'avocat, parce que on vit dans une société où les choses sont très stressantes, où on n'a plus le temps d'écouter les gens. Les avocats qui peuvent être d'excellents avocats par ailleurs et faire tout à fait consciencieusement leur métier, n'ont pas le temps d'écouter, n'ont pas le temps d'entendre. Ils sont dans l'informatique, dans l'administratif, dans l'élaboration de leurs conclusions, dans la rapidité avec laquelle il faut travailler aujourd'hui. Et on passe à côté de beaucoup de choses. Et c'est vrai que le droit ne résout pas tout. Voilà, le droit ne résout pas tout et même fabrique parfois le conflit. Il faut bien quand même l'admettre, hein, même si on s'applique à ne pas le faire quand on est sérieux. Mais par ailleurs, souvent, les procédures sèment un peu le conflit. Et lorsque ce conflit est réglé, les gens ne sont pas très contents, même quand ils ont gagné leur procès.
Oui.
Même quand ils ont gagné. Et donc, c'est vrai que j'ai souhaité organiser ma vie autour d'autres choses, et notamment autour de la psychologie qui m'a toujours beaucoup intéressé. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que je m'intéresse à la psychologie et à la psychanalyse, mais j'avais cette difficulté de ne pas pouvoir pratiquer ça dans mon bureau d'avocat. J'étais pas là pour ça. Et puis, les gens ne s'épanchent pas dans le cabinet d'un avocat comme dans le cabinet d'un psychanalyste, bien sûr. Donc voilà comment je suis arrivé à la psychanalyse et comment maintenant je suis heureux de pouvoir enfin, j'ai l'impression, faire peut-être un métier plus utile.
D'accord, avec plus de sens.
Avec plus de sens, en tout cas, disons comme ça. Oui.
Donc je pensais que c'était vraiment intéressant de revenir un peu là-dessus pour donner peut-être à certains encore plus le déclic, hein, de ne pas s'adresser qu'à des avocats pour qu'ils deviennent tous psychanalystes.
Ça serait un drame, vu le nombre d'avocats.
C'est pas ça le but, mais il y a plein de personnes, effectivement, j'en rencontre beaucoup, et certainement vous aussi, Jean-François, des personnes qui sont en attente, qui sont en train de réfléchir. Est-ce que ça y est? Est-ce que je saute le pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je tente cette reconversion, tout
simplement? C'est très difficile de changer de métier, ça c'est sûr.
Certainement.
C'est difficile.
Il y a des contraintes.
Avec ce but de faire une vraie formation et d'avoir une ouverture d'esprit que l'on n'a pas forcément le métier précédent.
Voilà, c'était donc pour donner, si vous l'avez pas compris, envie effectivement ou l'encouragement nécessaire à toutes celles et ceux, même si François va dire que c'est effectivement pas simple pour différentes raisons, effectivement qui sont ces raisons qui sont pas simples sont propres à chacun. Ça c'est tout individuel parce que les barrières non pas qu'on se les fixe soi-même,
mais c'est vrai qu'ils sont propres à chacun.
Chaque vie est différente et chaque problématique. Mais si vous pouvez réfléchir encore à nouveau et n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose qui a du sens pour vous et dans lequel vous réaliserez du mieux possible. Ça, c'est sûr que ça sera une très très bonne chose pour vous certainement et même pour votre santé, puisque ici nous parlons de santé dans cette émission À ta santé.
Exactement.
Alors si vous l'acceptez, Jean-François, des choses comme ça que les gens ont tous entendu parler, comme le complexe d'Œdipe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce complexe d'Œdipe en tant que psychanalyste?
Alors, le complexe d'Œdipe, c'est un peu le fondement de la psychanalyse traditionnelle. Alors,
bien sûr.
Il y a aujourd'hui des psychanalystes qui en contestent le bien fondé. Ils ne sont pas très nombreux. Mais c'est ce postulat de base que l'enfant, entre 0 et 5 ans, à peu près, va nourrir un complexe d'amour et de haine envers ses parents. Complexe d'amour et de haine d'ordre libidinal. Voilà, c'est-à-dire que le petit garçon va avoir envie de coucher avec sa mère, pour parler franc, et la petite fille va avoir envie de se marier avec son père. C'est à peu près le schéma.
Pour résumer. C'est parlant.
Mais voilà, ce qui fait que l'enfant doit sortir de cette espèce d'engrenage, forcément, en grandissant, il va en sortir plutôt naturellement. Il va s'ouvrir aux autres. Et c'est un complexe qui vient justement expliquer le tabou de l'inceste, qui est justement un principe de base de toute l'humanité. Hein. Toutes les cultures africaines, occidentales, orientales connaissent ce tabou-là. Et c'est grâce au complexe d'Œdipe qu'on arrive justement à ça et à s'ouvrir aux autres. Et la manière dont un enfant aura traversé l'Œdipe, comme on dit, plus ou moins facilement, aura liquidé son Œdipe, eh bien va faire de lui un homme ou une femme à problème.
Ou pas,
d'accord. Bien sûr. Mais enfin, ou pas, sachant qu'on ne traverse jamais complètement bien l'Œdipe.
C'est ce que j'allais dire.
Nous ne sommes pas des robots.
Dans les propos, bien traversé son complexe d'Œdipe. Je me demandais, est-ce que j'avais posé la question, est-ce que justement, mais la réponse est déjà donnée, est-ce que c'est possible?
C'est possible, mais avec toujours quelques difficultés. On a toujours. Écoutez, je crois que chaque jeune adulte a des problèmes quand même avec sa mère, avec son père, oui. De compréhension, de relation, d'explication. Il n'y a pas de famille parfaitement heureuse. Hein.
Et la deuxième question que je voulais poser, mais alors, est-ce que c'est souhaitable est-ce que ça pourrait être souhaitable de traverser très correctement son complexe d'Œdipe?
C'est très souhaitable,
oui.
Bien évidemment, mais... C'est rarement le cas, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas des robots, nous avons tous des circonstances de vie qui sont différentes, des parents qui sont différents, qui ont eux-mêmes eu leurs propres problèmes antérieurement.
Oui, bien sûr. Ouais.
Donc, il y a une espèce de contamination comme ça qui se fait, donc on ne traverse jamais complètement, parfaitement bien son Œdipe.
Très bien. Bon.
C'est désespérant, n'est-ce pas?
En parlant comme ça, c'est vrai qu'après, on est au micro et on s'analyse soi-même.
Alors, écoutez, voilà.
C'était là pour la note d'humour, effectivement, qui est toujours importante à partager. Donc, pour Œdipe, est-ce qu'on est allé vite sur
l'Œdipe? Mais parce que c'est peut-être pas non plus le sujet crucial, parce que les gens ne viennent pas vous interroger. Non. Dans votre cabinet sur l'Œdipe. Ai-je bien traversé mon Œdipe ou l'ai-je mal traversé?
Parce que ça fait partie
des choses justement qui ont été refoulées complètement. Oui. Parce qu'avant l'âge de 4 ou 5 ans, un adulte n'a pas de souvenir de son enfance.
C'est vrai.
Voilà.
C'est variable encore une fois.
Alors c'est variable d'une personne à l'autre, ça c'est sûr, mais ce qui est certain, c'est que lorsque un adulte vous dit « Ah, pourtant, je me souviens très bien à l'âge de 3 ans, oh mais j'avais à peine 3 ans, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » On lui a dit.
Bien sûr.
Ou bien on lui a montré des photos.
Aussi.
La photo parle aussi beaucoup. Hein. On lui a dit, on lui a raconté. Est-ce qu'on lui a raconté avec l'objectivité qui permet aujourd'hui à l'âge adulte de dire... La mémoire inconsciente est une mémoire qui est constamment remâchée, voilà, qui est ruminée.
Oui.
C'est pour cette raison que, puisqu'on parlait de refoulement tout à l'heure, ce qui a été parfaitement bien refoulé à un moment donné, parce qu'on l'a remâché... ruminer et re-raconter, hop, ça sort à la conscience et ça fait mal. Parce que c'était quelque chose qui avait pour but d'être enterré, si on peut dire.
D'accord, mais c'est un éclairage intéressant. Donc, je pense que ça parle à l'ensemble des gens qui nous écoutent. Tout le monde a entendu parler de ce complexe d'Œdipe. Et est-ce que nous pouvons, dans le même esprit, parler un peu de l'acte manqué?
Ah oui, alors là on peut parler de l'acte manqué. Écoutez, alors là je peux même vous raconter une histoire que je n'avais pas préparée, mais voilà. Un individu qui doit payer à sa femme 20 000 euros de prestations compensatoires.
Ah, ça rappelle des souvenirs.
C'est l'avocat qui vous parle, là. C'est plus le psychanalyste. Et bien sûr, il n'est pas très content, mais enfin, on lui fait observer quand même qu'elle en demandait 100 000, il en a 20 000 à payer. C'est un résultat qui doit correspondre, honorable en tout cas, qu'il faut accepter. Cet homme me dit, je vous envoie un chèque sous 8 jours. Il envoie le chèque non signé. Oui, ça peut être une erreur. On a oublié de le signer. Voilà. Mais quand je téléphone à ce client en lui disant, monsieur, je ne peux pas encaisser le chèque, il n'est pas signé. Il hurle au téléphone et il me dit, oh là 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 là. Mais ce chèque, je l'avais fait une première fois. J'avais fait un chèque de 20 000 euros en chiffres et 20 000 euros en lettres et 2 000 euros en chiffres. Je m'en suis rendu compte au moment de mettre le chèque sous enveloppe. Vite, j'ai réalisé, j'ai voulu rajouter un zéro, j'en rajoute deux. Deux actes manqués.
Oui.
Donc il refait le chèque, ce chèque qui m'est parvenu non signé. Donc vous voyez, l'acte manqué, c'est finalement l'acte réussi. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas payer et on a fait en sorte de bloquer une fois, deux fois pour arriver à ne pas payer. Bon, c'est un exemple parmi d'autres.
Hein. Mais là, c'est totalement inconscient.
Mais là, c'est totalement inconscient, parce que la première fois, il se rend compte quand même de son erreur, et donc il déchire le chèque, et la deuxième fois, il met le chèque sous pli non signé, et ce qui est un nouveau blocage qu'il fait au règlement de cette somme. Voilà.
Oui.
Ce qui fait que notre conscience nous dit ce qu'il faut faire, il faut exécuter les décisions de justice, il faut être correct, il faut faire les choses dans le principe de réalité, qui est le principe psychanalytique de base, mais en même temps, quand on veut pas, on veut pas. Et il y a une petite musique derrière ou ce petit inconscient qui nous dit si c'était possible, si c'était possible, quand même, ça serait bien de ne pas payer. Donc voilà un exemple d'acte manqué qui date de quelques mois, mais qui pour moi a été tout à fait révélateur. Et le lapsus, vous ne voulez pas que je vous en parle.
Mais si, bien sûr, c'était la question qui suivait. Mais je voulais finir sur l'acte manqué. Moi aussi, souvent, j'accompagne des personnes, etc. Et souvent, je dis les personnes que j'accompagne sont celles qui souffrent d'une situation. Donc, est-ce qu'on peut... Donc, l'acte manqué, il y a l'acte manqué qui nous a fait rire, là, de cette personne.
Oui, qui nous a fait rire.
Mais la question que j'aimerais poser, ou vous poser, à cette personne, c'est est-ce que c'est douloureux ? Et si c'est récurrent, si c'est répétitif, etc., qu'est-ce qu'on peut en faire de cette... Est-ce qu'il y a des gens que l'on suit parce qu'ils font...
Ça peut être rigolo, effectivement, bien sûr. Ce qui l'est moins, par exemple, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très doué et qui passe l'agrégation de philo, par exemple, et qui le jour... où il doit passer l'examen, oublie la date, ou ne se lève pas à temps, rate son train et ne peut pas passer son examen. Ça, c'est moins drôle.
Oui,
ça porte à sourire.
Oui,
le lapsus, l'acte manqué, porte toujours à sourire.
Oui.
Mais en même temps, des actes manqués répétitifs comme celui-là, qui peuvent d'ailleurs apparaître comme une névrose d'échec. C'est-à-dire, j'ai tout pour réussir, je travaille au maximum, je suis capable de le faire, mais en dernière analyse, je me débrouille à ne pas y aller.
D'accord. Ouais.
Alors oui, ça se soigne en psychanalyse. Enfin, le terme soigner n'est pas un terme psychanalytique, mais ça peut s'élaborer en psychanalyse et réfléchir sur la question de savoir pourquoi et transformer l'essai. Voilà.
D'accord. Alors vis-à-vis du lapsus, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'impatience.
Non. Mais
le faire partager de l'expérience,
c'est ça
qui est intéressant.
Le lapsus est un acte. C'est la révélation d'un désir caché, le lapsus. Voyez. Alors c'est vrai qu'ils sont souvent à connotation sexuelle, mais quand vous voyez, par exemple, je ne l'invente pas non plus, hein, ce lapsus-là, où un procureur de la République devant les caméras de télévision qui décrit l'enquête qu'il est en train de mener sur un crime horrible, explique avec une tête de circonstance, bien sûr, qu'on a enfin retrouvé la victime au fond d'un vagin.
Effectivement.
Il veut dire au fond d'un ravin. Donc je vous cite là. J'en ai d'autres à vous
Celle-ci
citer, mais je ne vais pas.
C'est
assez caricatural, mais il y a toujours. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les deux mots, forcément.
Oui.
Mais quand on est devant les caméras de télévision, justement, on fait doublement attention. Bien sûr. Quand on est à un micro de radio, n'est-ce pas ?
On essaie en tous les
cas.
On essaie.
Et c'est parce qu'on fait très attention que notre inconscient nous met en échec.
Eh oui.
Souvent.
Eh oui. Eh oui. En tous les cas.
Parce que souvent, ces lapsus-là arrivent en public.
Mais oui, oui, parce qu'effectivement, c'est là, je crois, on fait attention, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qu'on essaie de mettre en pratique.
Quand Elisabeth Borne, notre première ministre,
récemment,
essaie de justifier, bien sûr, la réforme des retraites, explique comment elle va traiter le problème, et dans la dernière phrase de sa démonstration, alors là, je cite de mémoire, elle nous dit, je crois, oui, le dialogue ne viendra pas de notre côté. Elle veut dire que le blocage ne viendra pas de notre côté, bien évidemment. Mais
il ne pourra pas y avoir de dialogue, mais c'est
qu'elle sait dans son inconscient que malheureusement le dialogue est très pauvre et que certainement à l'Assemblée nationale il faudra procéder autrement pour un vote
là,
en masse.
Là, c'est malvenu, effectivement.
Et voilà. Oui, mais elle, ce lapsus auquel j'ai assisté à la télévision, comme tout le monde, l'a fait rire.
Ah oui.
Et ça, c'est significatif aussi de quelqu'un qui accepte d'abord de s'être trompé.
Oui.
Parce que dans certains autres...
Certains pourraient se trouver gênés. Enfin, peut-être le procureur auquel vous avez fait...
Gênés ou ne voudront pas reconnaître. En disant que ce sont les autres qui ont entendu
et qui ont l'esprit
mal placé.
Là, c'est une autre personnalité, peut-être.
C'est une autre personnalité. Et puis parce qu'on est tellement gêné d'avoir...
Oui, là, c'est gênant pour notre Premier ministre, mais c'est un petit peu...
C'est moins connoté, c'est
oui,
mais voilà.
Sûr,
mais quand même, elle l'a dit, hein, le dialogue ne viendra pas de notre côté.
Oui, c'est éloquent.
En
tant que parent, par exemple.
C'est éloquent, c'est la manière dont, finalement, l'inconscient fonctionne, qui nous met en échec et qui nous dit « Voilà ce que tu penses, véritablement.
Ah, oui.
Voilà qui tu es. Hein » C'est ça.
Alors, un thème aussi que j'aime tout particulièrement, entre autres, c'est la résilience. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot ?
La résilience, c'est surtout Boris Cyrulnik qui en parle beaucoup. La résilience, c'est apprendre à faire deuil. Je n'ai pas d'autre définition. Enfin, Cyrulnik doit être plus bavard que ça sur le sujet. Savoir faire deuil, c'est quand même le but premier de la psychanalyse. C'est pour cette raison que tout à l'heure, je vous disais que Est-ce que la psychanalyse soigne ? Disons qu'elle réduit les difficultés. Elle peut parfois les anéantir complètement. Oui. Mais savoir faire deuil, c'est quand même l'expérience humaine. C'est accepter. Et c'est l'expérience humaine la plus favorable. Hein. C'est celle qui nous permet de vivre et de survivre.
Bien sûr. Et effectivement de rebondir.
De rebondir.
Et de continuer, effectivement.
Ça, c'est un vrai travail psychanalytique de savoir faire deuil, de savoir dominer et de savoir expliquer à soi-même la douleur que l'on porte en soi.
Il y a ce phénomène-là de résilience, c'est tout à fait intéressant. Et donc, ça fait souvent écho à un choc, peut-être un traumatisme.
Un traumatisme, bien sûr.
Donc, qui a été refoulé, dont on n'a plus connaissance, et qui peut revenir, effectivement, au grand galop et nous handicaper dans notre... Donc ça doit quand même faire partie du travail, enfin, c'est l'image que j'en ai, du psychanalyste. Donc, d'essayer
de remonter à ce traumatisme.
Ça,
et de le faire élaborer par le patient.
D'accord.
Parce que lorsqu'un patient vient pour la première fois chez un psychanalyste, il ne dit qu'un élément parmi d'autres. Il va dire pourquoi, ce qu'il vient faire, et souvent, ce n'est pas le vrai problème qu'il y a à résoudre.
D'accord.
C'est un problème, c'est un épiphénomène.
Qui ouvre la porte à
des choses plus graves, mais qu'il va falloir élaborer, et auxquelles souvent le patient ne s'attend pas.
Très bien. Donc tout un programme déjà. Hein, et maintenant, toutes celles et ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui écouteront ou qui réécouteront l'émission, savent qu'ils peuvent aller faire confiance, pleinement confiance à Jean-François Baudet à Bordeaux.
Merci, c'est un honneur.
Où est-ce qu'on peut...
J'exerce à mon domicile où j'ai une pièce qui est très agréable, un petit peu en marge du brouhaha éventuel de la maison. 14 rue Prosper. À Bordeaux,
Prosper, d'accord,
près de l'hôpital Saint-André.
Un numéro de téléphone pour vous.
Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 07 73 35 81.
D'accord. De toute façon, effectivement, toutes celles et ceux qui n'auront pas, évidemment, en direct, c'est difficile d'avoir un stylo à portée, mais vous pouvez réécouter l'émission en podcast, comme ça vous pourrez bien noter le numéro de téléphone, ou de toute façon, la radio aussi peut faire écho, l'émission, on peut vous donner toutes les informations nécessaires pour aller voir Jean-François Baudet à 14 rue Prosper à Bordeaux.
C'est bien ça.
Voilà, donc je ne sais pas si je vais y aller de suite, mais je réfléchis un peu, mais c'est peut-être au travers de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je pense qu'il y a, peut-être matière
à réfléchir.
ce qui doit être le cas d'un grand nombre d'entre nous, rassurez-moi Jean-François,
de réfléchir. Mais, enfin, moi je pense, ce que je crois, c'est que nous aurions tous besoin de réfléchir sur nous-mêmes et d'éviter des phénomènes de répétition que nous avons tous. Hein. Voilà.
D'accord. Eh bien, nous allons, donc voilà, le mot est dit, allons tous...
sur le divan de M. Baudet. Non, je dirais, il ne faudrait pas aller jusque-là.
En tous les cas, merci beaucoup d'avoir partagé d'abord l'expérience.
Merci à vous de m'avoir invité.
Eh bien, c'était un grand plaisir qu'on pourra poursuivre, parce que c'est un thème que je trouve d'abord personnellement passionnant, et après, bon, j'espère que c'est aussi partagé par celles et ceux qui nous écoutent, bien évidemment, mais en tous les cas...
Je suis prêt à revenir.
voilà. Il est donc maintenant, comme me l'a signalé Dylan, notre merveilleux technicien, toujours là, disponible à m'accompagner durant une heure d'émission, qu'il était temps de conclure. Donc, merci Dylan pour la technique, merci encore à Jean-François Baudet pour
sa
participation. Et donc, vous pourrez donc réécouter l'émission jeudi de 10h à 11h, en podcast de la radio sur audioradio.fr, dans les podcasts du lundi et dans une application SoundCloud. Vous avez à votre disposition l'ensemble des émissions dont celle-ci sera disponible dans pas très longtemps. Donc merci, donc je l'ai déjà dit. Et donc toujours pareil, terminer sur une pensée la plus positive possible, vraiment pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et aussi pour celles qui traversent parfois des périodes un peu tumultueuses. Des périodes difficiles. Donc, je vous le redis avec beaucoup de détermination. Nous sommes là pour vous. On est à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous. Donc, n'hésitez surtout pas à écouter l'émission. Ça peut faire du bien aussi, comme aujourd'hui. Mais aussi, effectivement, si vous avez besoin de simplement parler, vous pouvez aussi participer à l'émission. Et ça peut faire un très, très grand bien à votre santé. Un grand merci donc aux chères auditrices et auditeurs, de plus en plus nombreux. Ça fait un très, très grand plaisir de partager toujours avec vous, de plus en plus nombreux comme je l'ai dit. Et maintenant, place au générique de cette belle émission À ta santé, que vous retrouvez évidemment toujours sur le 91.3 et Internet. Hein. N'oubliez pas Internet pour nous écouter. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Belle semaine à toutes et tous. Au revoir. You're a sky full of stars.